En ce jeudi matin 25 juillet, nous continuons donc les enseignements du Dieu vivant et, selon notre sainte habitude, nous invoquons l'aide toute puissante du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour le temps que tu nous donnes, la température favorable, pour cette grâce de pouvoir écouter ta parole en plein air, comme le faisaient autrefois tes disciples, alors que tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, t'arrêtant dans la campagne ou sur une montagne pour enseigner les tiens, leur communiquer ce que ton Père avait mis dans ton cœur, pour que l'Esprit de Dieu puisse rappeler un jour ces vérités que tu avais enseignées à tes propres disciples, qui nous les communiqueraient aussi, qui les écriraient. Nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous est ainsi parvenue et qui reste vivante à 15 années de l'an 2000. Ô Dieu notre Père, instruis-nous ce matin, captive nos pensées, rends-les obéissante à ton Fils bien-aimé, et qu'ainsi nous puissions être de ceux qui, dans ce monde de mort, connaissent le Dieu vivant et ses enseignements qui sont vérité là où tout est mensonge, qui sont réellement joie et paix, où tout est tristesse et trouble. Fais-nous du bien. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et bien, comme vous le savez, nous avons devant nous le chapitre 26 et 27, ce qui nous fait 55 versets. Mais je voudrais dire quelques mots, revenons à la soirée d'hier. Vous avez pu remarquer certainement une certaine fatigue chez l'instrument dont Dieu se sert pour vous apporter le message de la part du Seigneur sur les proverbes. Et cette fatigue, le Seigneur Jésus lui-même l'a aussi ressenti dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? À un certain moment, il a dû dormir dans une barque. Il a dû dormir en pleine tempête. Et c'est alors que ses disciples crièrent à lui pour le réveiller. La seule fois, au fond, où il prenait un peu de repos. Et vous pouvez vous imaginer qu'il pouvait être fatigué, car il était un homme comme nous, et les heures de sommeil qu'il avait étaient bien courtes, de sorte qu'on peut très bien comprendre que sur cette barque, il se soit endormi. Eh bien oui, hier, la journée avait été particulièrement chargée, et on m'a demandé pourquoi je me trouvais seul sur le télésiège. Eh bien, parce que si je participe à toutes les activités, j'ai vraiment ce besoin d'être en tête à tête avec le Seigneur. D'abord, il n'y avait personne. Il restait une personne. De sorte que le Seigneur voulait que je sois seul et me confirmait pour que je n'aie pas à parler et que je puisse prier. Et comme j'avais ma Bible avec moi, je voulais relire les chapitres sur lesquels nous devions nous arrêter hier soir. Alors, ne pensez pas que je boudais ou que j'étais malheureux, parce que j'étais solitaire entre le ciel et la terre. Hier soir, Le Seigneur m'a mis à cœur de vous laisser donc un peu de temps pour vos témoignages. Pour quelle raison? Parce que j'aime savoir ce qui se passe dans vos cœurs. On m'avait signalé aussi que plusieurs pensaient que je n'avais pas vraiment répondu à la question de notre cher Jocelyn concernant le mot talion que j'avais employé pour expliquer cette terrible affirmation biblique, œil pour œil, dent pour dent. Alors malgré ma nouvelle intervention à midi, il y en a qui ont trouvé encore que je n'avais pas répondu. Évidemment, le mot talion n'est pas dans la Bible. Mais je vous ai dit que vous deviez bien comprendre le sens des mots que vous rencontrez. Mais comment? Je vous ai dit que quand vous êtes seul, vous n'avez personne pour vous expliquer, vous n'aviez qu'à prendre un dictionnaire. Alors j'avais répondu à Jocelyn, ici à la clairière, que cette loi signifiait justement un jugement égal. Vous demandez qu'est-ce qu'est la loi du talion. C'est un jugement égal, une punition semblable à la faute commise. Ça ne vous suffisait pas. Non. Alors je suis revenu sur ce mot au dîner, car je connaissais bien les pensées qui étaient dans le cœur de plusieurs et qui estimaient que j'avais escamoté la question. Alors j'ai répété la définition de talion. Qu'est-ce que c'est talion? Prenez le dictionnaire. Et vous trouverez punition identique à l'offense. Une loi qui exige de punir l'offense par une peine du même ordre. Mais je sais que cette confirmation n'a pas encore satisfait certains, certaines. Vous voulez savoir l'origine du mot? Eh bien oui, ça vient d'un mot latin. Talion. Mais qu'est-ce que cela vous donne de plus, mes amis? Vous êtes des curieux. Eh bien, c'est très bien. Mais cherchez vous-même. Travaillez un peu vous-même. Au camp Mahanaïm, je ne crois pas avoir reçu la mission de vous enseigner l'étymologie des mots. Alors cherchez vous-même. Mais c'est un mot latin, talion, d'où est venu talion, pour expliquer cette loi que vous trouvez dans la Bible. Ce matin, le Seigneur m'a rappelé la vie d'Ézéchias, un des rois les plus pieux de Juda. Parce que, j'ai essayé de vous en parler un peu hier soir, puis ce matin, le Seigneur m'avait béni d'une façon très particulière. On avait peut-être dormi qu'une heure et demie la nuit précédente. Ce matin, le Seigneur m'a laissé dormir jusqu'à 4h15. Il m'a réveillé et j'avais bien dormi. Je me sentais reposé et j'ai loué le Seigneur. Puis j'ai juste monté dans ma tour et là, eh bien, j'ai repensé à cette vie d'Ézéchias. Et je me suis dit que je reviendrai encore quelques instants sur ce pieux roi de Juda, qui avait eu un mauvais père, Akaz, et une bonne mère, Abi, la fille de Zacharie. Et nous avons souligné hier soir, j'espère que vous l'avez compris, que l'enseignement de la parole doit passer avant l'enseignement de qui? D'un père, ou avant l'exemple d'un père. Mais honorer son père, c'est en tout cas prier pour sa conversion. Plusieurs n'ont pas eu de père pour vous enseigner. Et pourtant, vous devez honorer votre père qui ne vous a pas bien enseigné, peut-être. Eh bien, la meilleure manière d'honorer encore votre père, si aujourd'hui il vit encore, même s'il ne vous comprend pas, eh bien, priez pour sa conversion et que dans votre vie, il puisse voir autre chose que ce qu'il contemple quand il regarde sa propre vie. Et que le fils ou la fille qu'il a engendrée, eh bien, lui fasse envie. Que cette vie qu'il voit en vous fasse envie. C'est ainsi que vous honorerez votre Père. Parce que vous montrerez que la vie que vous avez vient d'un plus grand que lui. D'un plus grand que ce Père terrestre. Vous avez une vie qui vient du Père céleste. Et c'est ainsi que vous honorerez votre Père ou votre Mère s'il est question d'une mère. C'est aimer tout en détestant la manière de vivre d'une personne. C'est avoir une vie contraire à la sienne. Eh bien, aimez votre Père tout en détestant la manière de vivre qu'il a pu avoir. Alors, je vous conseille encore, puisque vous aimez les proverbes, d'étudier la vie d'Ézéchias, puisque c'est lui qui a fait rassembler les proverbes que vous trouvez depuis le chapitre 25 au chapitre 29 y compris. Alors étudiez cette vie d'Ézéchias qui à l'âge de 25 ans commença à régner et manifesta ce qui était dans son cœur. J'ai rappelé que comme futur roi, il avait dû lire la loi de Moïse et en faire une copie selon l'ordre du Deutéronome au chapitre 17e. Il devait ensuite y lire tous les jours de sa vie. Et ce qui l'a caractérisé, vous le trouvez, et j'espère que vous avez pu le noter, malgré le peu de lumière de hier soir, 2 Rois, chapitre 18, versets 20 à 21, 2 Chroniques, chapitre 29 à 32, et Ésaïe, chapitre 38 et 39. Et ce qui caractérise ce roi, alors vous pouvez noter tous ces traits, vous avez certainement fait les traits, le dessin rapide du paresseux, hein. Et moi je vous fais en quelques traits la vie de vos pièces. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Deuxièmement, dans toute l'entreprise, dans toute l'œuvre qu'il entreprit, dans le service de la maison de Dieu et dans la loi et les commandements pour rechercher Dieu, il est dit qu'il agit de tout son cœur. Voilà ce qu'il caractérise. Un trait d'Ézéchias, c'est que dans ce qu'il fait, il le fait de tout son cœur. Et ce serait une merveilleuse étude de prendre dans l'écriture ceux qui ont agi de tout leur cœur. Et ce que nous devons faire, quand nous devons faire quelque chose, nous devons le faire de tout notre cœur. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire de tout notre cœur? Toute chose. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur et pour la gloire de Dieu. Mais il ne faut pas le faire à moitié, de sorte que, au fond, notre cœur doit être entièrement engagé pour Dieu. Il agit de tout son cœur. 2 Rois 31, versets 20 à 21. Donc, il fit ouvrir les portes du temple que son père avait fermées. Il avait aboli le culte de Dieu, du vrai Dieu, à Jérusalem même. Voilà le père qu'il avait. Moi, je ne sais pas quel père vous avez eu. Mais je connais un père qui avait aboli le culte du vrai Dieu dans la capitale de Juda, et c'est son fils qui a eu le courage de rétablir le culte que son père avait interrompu. Il a ôté ensuite tous les hauts lieux que son père avait établis dans sa ville pour corrompre le peuple. Il a brûlé le serpent des reins, qui était devenu une idole après avoir été un instrument dans la main de Dieu, parce qu'on ne doit pas en rester à l'instrument, il faut aller par-delà l'instrument. Mais si l'instrument devient un piège, on brise le piège. Il est dit qu'il mit sa confiance dans l'Éternel. Il est dit qu'il s'attacha à l'Éternel, qu'il ne s'en détourna point, parce qu'il ne faut pas seulement s'attacher. Le jour de votre conversion, vous vous attachez, hein. Puis après, vous vous détournez du Seigneur. Alors, il n'est pas question de se détourner. Il est question de s'attacher, de persévérer, et on ne s'en détourne pas. Il est dit qu'il garda les commandements que Dieu avait donnés à qui ? À Moïse. Il est revenu jusqu'au temps de Moïse où Dieu avait révélé ses pensées à son peuple. Et il est dit que l'Éternel alors fut avec lui et il prospéra. Il purifia le temple. Quel temple devez-vous purifier, mes frères et sœurs ? Le temple de votre cœur. Hein. Alors, demandez au Seigneur qu'il vous donne de purifier votre cœur, parce que quand vous gardez votre cœur, ce cœur qui a été si longtemps le temple fermé, hein, parce que vous n'aviez pas de pensée pour Dieu, que d'hommes ont un temple fermé pour le Seigneur. Et ayant leur cœur fermé pour le Seigneur, ils adorent toutes sortes de choses. Comme on l'a vu, il y a ce mot adorer, j'adore ceci, j'adore ça. Vous avez un tas de hauts lieux où vous brûlez de l'encens. Eh bien, maintenant, ouvrez vos cœurs, vous allez constater ce qu'il y a dans vos cœurs, à quoi vous brûliez de l'encens, à la jalousie, à la méchanceté, à l'impudicité, à ceci, à cela, toutes ces idoles qui se trouvent dans votre cœur et qui sont des choses mauvaises, corrompues. On purifie cela, on rétablit les fonctions des sacrificateurs, c'est-à-dire qu'on renouvelle notre communion avec le Seigneur selon ses directives. Et il célèbre la fête en invitant tout Israël. On arrive à un festival. Vous aimez les festivals, paraît-il. Eh bien oui, mais la fête de Pâques. Il a célébré la fête de Pâques et il a invité non seulement Judas, mais ceux qui étaient en Israël et qui étaient privés du temple. Il les a invités. Il a ouvert son cœur. Il a eu une vision qu'un jour toutes ces divisions seraient finies. Il avait vraiment l'esprit œcuménique dans le bon sens du terme. Puis, il a manifesté sa piété dans la guerre que lui fit, c'est pas lui qui fit la guerre, mais on lui fit la guerre, le roi Sanchérib d'Assyrie, avec le général qu'on appelait le Rabsaké, qui est venu insulter le peuple de Juda et qui avait réussi à faire le siège de Jérusalem. Et qui leur disait que les dieux d'Assyrie leur avaient toujours donné la victoire, que ce n'était pas leur dieu en Israël qui allait les délivrer. Ils ont insulté le dieu vivant et les armées du dieu vivant. Alors, quand Ézéchias s'est trouvé dans cette situation et qu'il a reçu même cette lettre épouvantable du Rabsaké, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé dans le temple qu'il avait réouvert et il a lu la lettre devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a pris en main toute chose et vous savez comment, en une seule nuit, ces gens ont été exterminés par la main d'un ange, la main du Seigneur. Et alors, vous apprenez, en lisant ces textes, le nom de ces conseillers et de ses ministres. Je ne vous en ai cité qu'un hier. C'était qui ? Vous dormiez ou bien ? Ésaïe, n'est-ce pas ? Mais il y avait aussi Eliakim, il y avait Sebna, qui était le scribe, il y avait Joac, fils d'Aja, qui était le rédacteur des chroniques. Alors, c'est de ces gens-là qu'il est question ici, dans le chapitre 25. Voici encore les proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias. Si vous avez un peu de curiosité, c'est bon d'en avoir. Je n'ai pas condamné la curiosité. Vous cherchez qui sont ces gens d'Ézéchias. Hein? Ça vous donnera peut-être plus qu'autre chose. Alors, ces gens d'Ézéchias, vous en trouvez les noms dans ces chapitres. Ceux qui étaient conseillers d'Ézéchias. Ce sont ces gens-là dont parle Proverbe 25, qui s'occupèrent de mettre ensemble des proverbes de Salomon, puisqu'il en avait fait une quantité si extraordinaire. Puis après, vous verrez tout à coup la maladie d'Ézéchias. Quel âge avait-il quand il tomba malade? Et que Dieu lui fit dire, Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Quel âge avait-il? Voilà encore une curiosité bien placée. Il avait 39 ans. Contrôlez-moi, faites comme les chrétiens de Béret, cherchez et vous trouverez. Il avait 39 ans. Mourir à 39 ans. Qui est-ce qui a 39 ans parmi nous? Mourir à 39 ans. Homme ou femme, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. 39 ans. C'est jeune encore. Juste une année avant 40 ans, le chiffre de l'épreuve. J'aurais quand même voulu arriver à 40 ans. Parce qu'on m'a dit que, un jour on m'a dit ça à Paris, j'avais 20 ans. Un homme n'a de l'expérience qu'à partir de 40 ans. Alors, vous savez, j'étais dans mes petits souliers. On m'avait demandé de prêcher à Paris, j'avais 20 ans, dans une grande assemblée, puis je l'avais fait. Et j'avais été très béni. J'avais reçu la collade par un professeur de Sorbonne, un homme délicieux, qui m'avait encouragé. Mais le soir, je dormais chez un homme jaloux. Et qui vivait dans le péché. Cet homme qui m'a dit ça, c'était un homosexuel. Mais il était dans cette assemblée, il distribuait la Sainte Cène. Ça s'est révélé plus tard. Et alors il voulait m'abattre. Alors il a prié cet Ézéchias. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajouterai combien d'années? 15 à tes jours. Puis Dieu encore a fait un miracle. L'ombre a reculé de 10 degrés sur le cadran de qui? De ce fameux Akaz qui s'était fait un cadran solaire. L'ombre a reculé sur le cadran de son père de 10 degrés. Ézéchias, donc après 14 ans de règne, devait mourir. Ça aurait été beau de mourir après 14 ans de règne. Ça faisait combien? 2 × 7. Une double perfection. Mourir après une double perfection de règne, c'est quelque chose. Il a voulu prolonger. Et c'est dans ces 15 années qu'il a déçu son Seigneur. Et qu'il a commis des erreurs. Et il est mort à quel âge? 54 ans. Ayant donné la vie à qui? À Manassé. Un roi selon le cœur de Dieu? Non. Un roi qui a eu un exemple merveilleux. Et ce Manassé a fait les pires abominations. Il a eu le meilleur des pères. Et Manassé n'a pas suivi l'exemple de son père. On pense que c'est lui qui a fait mourir. Quel prophète? Éveillé. De quelle manière? En le sciant en deux. Ésaïe, poursuivi par les gens de Manassé, selon la tradition, se serait réfugié dans un tronc creux, et on en a vu, et plusieurs de ceux qui étaient à Manaïm avec nous en Israël, près de Carmiel, vous avez vu ces grands oliviers qui sont tout creux, et vous vous réfugiez là-dedans, et on a fait scier l'arbre. Et il est parlé de gens qui ont été sciés dans quelle épître? Épître aux Hébreux. Et l'on pense que Ésaïe avait été scié. Et l'accusation que portait Manassé contre Ésaïe pour lui faire subir un tel traitement, vous savez ce que c'était? Il avait prétendu avoir vu le Seigneur. Alors que c'est pas possible qu'on ait vu le Seigneur. Donc Manassé accusait Ésaïe d'être un menteur. Et il le fit mourir. Eh bien, ce Manassé, quand l'épreuve alors l'a frappé, et qu'il a été mis en prison, eh bien, tout à coup, ce que son père lui avait enseigné lui est revenu. Et il s'est humilié, il a été brisé, et ce Manassé infâme s'est converti. Et le Seigneur l'a béni. Il l'a restauré, il lui a pardonné. Et il a dit, est-ce que vous avez vu comme Manassé s'est humilié? Dieu est un Dieu d'amour. Alors voilà ce que ce premier verset, qui est en quelque sorte l'introduction de ce que nous allons voir, m'a suggéré. Et ce matin, j'entendais, parce que vraiment j'étais fatigué hier soir, mais tout me revenait ce matin, et j'entendais ces textes qui m'interpellaient. As-tu des paroles à propos? Est-ce que tu donnes des paroles à propos? Les paroles à propos, c'est comme des pommes, pas la pomme dont on parle toujours dans le monde profane. La pomme de qui? La pomme d'Ève, hein. Soit disant que ça aurait été une pomme. Il n'avait pas dit ça. Mais des pommes d'or, une parole à propos. Puis, est-ce que tu es un homme qui chante des chansons à un cœur affligé? Et puis, il me rappelait aussi cette fameuse langue douce qui brise les os. Il y a des moments où on serait prêt à se mettre en colère, à se fâcher pour redresser quelqu'un. Puis le Seigneur nous dit, mais tu sais, ce qui peut le plus briser quelqu'un, c'est quand même la douceur. Je reviens à notre cher Jocelyn. Je repensais à la douceur et à ce miel. Mais le miel, c'est bien un symbole de la douceur, mais de la douceur naturelle. C'est pourquoi il faut veiller de ne pas manger trop de miel. Il faut veiller à nos affections naturelles, parce qu'on peut exagérer de ce côté-là. Trop de miel, c'est mauvais. Dans nos affections naturelles, quand les affections naturelles dépassent un certain degré, ça devient mauvais. Ça devient de l'idolâtrie, hein. Faites attention, dans vos affections naturelles, demandez au Seigneur qu'il les contrôle, parce qu'on peut exagérer. Nos affections naturelles pour nos enfants, alors c'est tout le temps du miel. Alors que quelquefois, il faudrait autre chose que du miel, parce qu'on aime. Mais on aime d'un amour qui n'est pas simplement l'amour naturel, l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Et puis, il y a un autre verset qui m'a frappé. S'occuper de notre propre gloire, est-ce que c'est la gloire? Ce n'est pas la gloire. Si vous vous occupez de votre propre gloire, ce n'est pas glorieux. c'est rechercher la gloire des autres qui est un honneur. Eh bien voilà ce que le Seigneur me disait à moi aussi. Vous n'avez pas tout pensé que je suis ici simplement pour vous exhorter, pour mettre ces vérités en face de vos yeux et de vos cœurs. Je suis là avec vous pour écouter ce que Dieu a lui-même à me dire. Nous passons maintenant à ces chapitres 26 et 27 et à vos questions. Quel texte vous interpelle-t-il aujourd'hui dans ces deux chapitres? Qu'est-ce qui veut ouvrir les feux? Neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Vous vous rendez compte que ça ne convient pas. C'est vraiment les saisons complètement renversées. La neige en été et la pluie pendant la moisson, ce serait quelque chose de catastrophique. Alors la gloire ne convient pas à un insensé. Donc ne donnez pas la gloire à un insensé. C'est comme si vous demandiez la neige en été et la pluie pendant la moisson. Et comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de quelqu'un qui vous maudit, alors que vous savez que ce n'est pas... Ça n'a aucune valeur, aucune importance. On a dit du mal de vous, on vous a maudit peut-être, et ça arrive. Eh bien, je ne m'inquiète pas. C'est comme un oiseau qui s'envole. Alors ne ruminez pas, ils ont dit cela de moi, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Non, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, et le mort pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Oui, le cheval, on le conduit aussi, on le fait avancer avec le fouet, quelquefois. On le conduit avec le mort, comme aussi l'âne. Mais, eh bien, la verge, c'est aussi pour le dos des insensés. Mais nous ne devons pas ressembler à un âne, à un cheval, et nous ne devons pas être insensé. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Là, je pourrais évidemment élaborer et dire bien des choses, bien des exemples, mais nous passons parce que je crois que vous avez compris que nous devons discerner à qui nous avons affaire et peut-être lui répondre selon sa folie ou ne pas lui répondre selon sa folie. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Donc, c'est tout à fait inutile. Ne vous coupez pas les pieds et ne buvez pas l'injustice. Donc, il ne faut pas croire qu'on doit donner des messages à n'importe qui, à tout le monde. Il faut avoir du discernement quand on ouvre la bouche et qu'on communique un message. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. C'est compréhensible. C'est des choses que nous n'avons pas à faire. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire une épine dans la main d'un homme ivre. Est-ce qu'il la sent? Non. De sorte que une sentence dans sa bouche, ça n'a aucune force, aucune valeur. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. C'est toute cette partie-là vous parle du discernement qu'on doit avoir dans nos rapports, dans nos relations, dans aussi notre ministère. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et qui est-ce qui a cité ce verset? L'apôtre Pierre, parlant de ceux qui ont fait profession, se convertir et qui après retournent. Il les compare aussi à une pluie lavée. Et vous connaissez, je l'ai dit bien souvent peut-être dans ces camps, Mahanaïm, que vos réunions d'évangélisation ne soient pas du lavage de truies. Ah, on fait une belle réunion d'évangélisation, et puis voilà, les gens sont impressionnés, on leur fait prendre une décision, puis au bout de peu de temps, on voit que ces gens, ces sauvés, sont retournés à leur bourbier. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas changé de nature. Nous l'avons dit bien souvent, le Seigneur ne compare pas des sauvés à des truies, pas même à des truies lavées. C'est peut-être très beau une truie lavée, c'est soyeux. Mais la truie reste truie, et alors elle retourne au bourbier, elle n'a pas changé de nature. Tandis que le Seigneur parle d'une brebis, quand il parle de ses brebis, des sauvés, c'est une brebis. Puis le chien, est-ce que le chien est employé comme animal pour figurer un élu? Dehors sont les chiens et les fornicateurs. Prenez garde aux chiens et aux mauvais ouvriers.